Bon, je démarre la présentation. Du coup, cette présentation, c'est pour rendre un peu, enfin, faire une synthèse de ce que j'ai pu faire pendant mon stage. Une des missions de mon stage, pas la seule, mais c'était de faire une cartographie des acteurs de la démocratie alimentaire sur le territoire bournisère. Donc, c'est ce que j'ai fait. Le stage, il a été financé par un laboratoire de recherche, d'où aussi cette dimension de recherche. Et ce rapport, il était plutôt... j'étais assez libre de faire ce que j'avais envie, mais en tout cas, je me suis permise de faire une cartographie des initiatives et des acteurs clés sur le territoire, et puis d'explorer aussi un peu les liens et les coopérations qui existent entre ces acteurs-là, et proposer quelques pistes. Donc, je vais introduire, ensuite je vais donner une définition de la démocratie alimentaire et expliquer pourquoi c'est un terme un peu complexe, que des fois est un peu flou aussi. Je vais vous parler de ma méthodologie, des résultats que j'ai obtenus, et ensuite je vais vous proposer quelques perspectives, pistes que, si vous voulez, vous pourrez lire dans mon rapport. Voilà, je vais aller un peu vite, mais vous aurez l'occasion d'avoir le document en PDF, et là il y a des versions papier que je vais faire circuler. Donc déjà je fais circuler donc ces trois. Donc pour introduire vraiment rapidement, vous savez plus ou moins tous et toutes que la Bournisère, c'est un bassin de vie qui a été identifié par la SSA, mais qui en effet s'étend sur deux territoires qui sont le Sungres-Yvaudan dans la Comcom Saint-Marcellin-Vercors-Isère et le Royan-Vercors qui fait partie de la Drôme et qui est une communauté de communes à part. Ces territoires-là sont tous les deux caractérisés par une vivacité d'initiatives qui partent du bas. Et j'ai pu constater ça lors des entretiens avec les élus aussi, qui étaient vraiment ravis de me raconter disons le fait que ce territoire il est vraiment fertile en termes d'initiatives citoyennes. Donc les objectifs du rapport étaient trois, c'était d'identifier cette richesse, ces acteurs, les initiatives qu'ils portent, et comme je vous le disais avant, de caractériser les liens et les coopérations qui existent ou qui pourraient être potentiellement développées. Je vais aller un peu vite. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est que la démocratie alimentaire? C'est un concept plutôt polysémique dans le sens où ça peut être défini, interprété de plusieurs manières. Il a été forgé dans les années 90 par Tim Lang, qui était un chercheur mais aussi paysan avant tout. Et puis, il a été repris par plusieurs chercheurs et chercheuses comme Dominique Paturel qui l'ont popularisé en France. Il y a quand même deux éléments clés qui reviennent tout le temps dans les initiatives, sont le fait de développer le pouvoir d'agir des habitants et des habitantes sur leur alimentation, donc vraiment le pouvoir d'agir ou empowerment en anglais, et le fait de les faire participer activement à la prise de décision. Donc ces deux éléments-là, on les retrouve, malgré les différentes manières d'interpréter la démocratie alimentaire, à chaque fois. Et les objectifs qu'on retrouve aussi souvent sont trois, de développer une agriculture durable, de permettre l'accès à une alimentation saine et durable et digne à tous et toutes, et aussi, pas tout le temps, mais d'expérimenter la démocratie, donc d'utiliser l'alimentation comme porte d'entrée qui peut permettre de renouveler notre démocratie qui est en pleine crise actuellement à l'échelle nationale mais aussi globale. Donc, il y a des concepts qui sont confondus parfois avec la démocratie alimentaire, mais il ne s'agit pas de la même chose. C'est la solidarité alimentaire, par exemple, ou la justice alimentaire. Donc, pourquoi ce n'est pas la même chose? Parce que la démocratie alimentaire est une façon d'arriver à des objectifs. Ces objectifs-là peuvent être tout à fait la solidarité ou la justice alimentaire, mais pas forcément. Et à l'inverse, on peut avoir de la solidarité alimentaire ou de la justice alimentaire sans avoir de démocratie ou de fonctionnement vraiment participatif. Donc il y a plusieurs dispositifs qui peuvent être considérés de la démocratie alimentaire comme des initiatives citoyennes telles que le glanage et la SSA. Les plans alimentaires territoriaux qui partent plutôt des collectivités territoriales, donc du haut, mais que peuvent être développés d'une manière démocratique. Et puis les entreprises à gouvernance partagée, comme certaines fermes sur le territoire, qui sont des sociétés coopératives d'intérêt collectif, des SIC. Voilà, donc pour vous parler rapidement de ma méthodologie, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait essentiellement des entretiens. Donc j'ai fait 27 entretiens avec une diversité d'acteurs sur le territoire, des paysans, des paysannes, des chargés de mission auprès des collectivités territoriales des deux côtés, les deux chambres d'agriculture, les associations, les centres sociaux locaux, les collectifs. Voilà, donc je suis allée toquer à plein de portes. D'ailleurs, certaines personnes ici ont été interviewées. Merci encore. Et voilà, à partir de ces entretiens-là, j'ai pu créer une base de données qui répertorie toutes les initiatives que j'ai pu trouver sur le territoire et tous les liens et les interactions qui existent déjà entre ces initiatives-là. Et à partir de cette base de données, j'ai créé une cartographie. Voilà, donc j'ai fait une analyse de réseau. Et puis ensuite, j'ai rédigé le rapport qui tourne là. Et les cartographies sont dans le rapport. Une des cartographies, c'est celle-ci, par exemple. On va la voir plus dans le détail après. Donc, les résultats que j'ai obtenus sont plusieurs. Donc, d'abord qu'il y a, comme je le disais, une pluralité d'initiatives qui sont portées surtout du bas et non pas par les institutions ou par les collectivités territoriales. Voilà. Et donc... En tout cas, comme prémisse, il faut dire que moi, j'ai adopté une approche de la démocratie alimentaire très englobante. Donc, j'ai voulu, par exemple, dans cette carte, inclure aussi les structures de l'aide alimentaire que, dans certains contextes, ils peuvent faire de la démocratie alimentaire, même si ce n'est pas leur cœur de métier. En tout cas, il y a une pluralité d'acteurs dans le Sud-Grésivaudan. En rouge, il y a les centres sociaux. En vert, les producteurs. Et productrices, en bleu clair les associations et en bleu foncé l'aide alimentaire et en jaune les initiatives, les collectifs citoyens formés par des habitants. Pareil dans le Royan-Vercors et puis il y a une zone qui est au milieu, ce sont les acteurs qui font partie un peu des deux endroits, des deux territoires. Voilà. Donc les initiatives principales qui existent sur le territoire sont quatre, les marchés trois prix. Il y a un réseau de 6 marchés sur le territoire. Les paniers solidaires qui sont notamment portés par Terreaux Locaux et en partenariat avec, bien sûr, d'autres producteurs locaux et les CCAS. Puis il y a Terreaux Locaux, pardon. C'est un chantier d'insertion qui fait de l'insertion de personnes en précarité par le maraîchage et la boulangerie. Et donc, ils sont partis du réseau Ferme de Cocagne et Emmaüs aussi. Et voilà, donc ils portent plusieurs, eux ils sont au centre, pourquoi? Parce que comme vous voyez c'est des cercles qui s'entrelacent et là pile au centre il y a Terreaux Locaux et les producteurs qui sont en même temps sur les quatre fronts. Du coup à Terreaux Locaux il y a en même temps les paniers solidaires, en même temps le marché trois prix, une fois par semaine, en même temps ils participent au glanage et en même temps à la SSA parce qu'ils sont conventionnés SSA et parce que une des membres du comité de pilotage de la SSA fait partie de Terreaux Locaux. Et donc là, vous voyez un peu les acteurs qui mènent une ou plusieurs de ces initiatives-là. Par exemple, pour citer un autre acteur clé, le Centre Social La Paz, il est surtout sur le glanage et sur la SSA, parce que le glanage est comporté par un salarié du Centre Social et parce qu'il y a plusieurs personnes du Centre Social La Paz qui font partie de la SSA et il y a de la mutualisation de ressources très souvent. Voilà. Il y a d'autres initiatives qui sont un peu plus petites et qui, disons, ont une portée démocratique un petit peu plus faible. Par exemple, des ateliers de cuisine qui sont organisés par Terreaux Locaux notamment, mais aussi par les centres sociaux avec les jeunes ou les moins jeunes. Les séjours alimentaires organisés par et pour les jeunes du Royan, par exemple, où les jeunes vont visiter des fermes, vont faire à manger avec les produits locaux, vont s'auto-organiser vraiment plusieurs jours de découverte du milieu agricole du territoire et les SIC, comme je le disais avant, donc plusieurs paysans et paysannes qui sont installés en SIC sur le territoire, donc société coopérative. Voilà. Comme je le disais avant, là c'est un peu long, mais c'est juste des citations en fait de chargés de mission des deux côtés, Saint-Marcellin et Royan-Vercors. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que ici les collectivités territoriales sont un appui aux initiatives, mais elles ne sont pas porteuses de ces projets-là. Et ils sont bien contents de ça. Donc, ils disaient que vraiment, nous, on a eu quasi personne à motiver. Les citoyens, les citoyennes sont hyper dynamiques. Nous, juste, ce qu'ils font surtout, c'est de les aider à chercher des financements, à répondre à des appels à projets comme Mieux manger pour tous, par exemple, à l'échelle nationale. Ou bien, on facilite, on met un lien, on crée des espaces d'échange entre les structures locales, mais on ne doit pas faire beaucoup plus que ça. Et ils trouvent que leur rôle, c'est bien celui d'appui, mais pas de porteur. Ce n'est pas la même chose comme on l'a vu à Grenoble ou dans d'autres endroits où les collectivités territoriales ont un rôle plus actif. Il y a quand même des différences entre la Royan-Vercors et SMVIC, parce que le Royan-Vercors, c'est une communauté de communes plus petite et il y a plus de contacts, je dirais, avec le chargé de mission, mais là, on ne voit pas très bien. Je suis désolée, il y avait beaucoup de liens partout que vous ne voyez pas là. Je ne sais pas pourquoi. C'est trop clair. Exactement, c'est la même carte qu'il y a dehors. En tout cas, imaginez-vous qu'il y a beaucoup de liens entre tous les acteurs. Donc, ce qu'il faut retenir aussi de cette carte, c'est que... je vous tourne ça comme ça, au moins de loin, vous allez voir. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que il n'y a pas des bulles d'acteurs, des bulles de liens, mais il y en a bien une qui est très dense. Ça veut dire que le réseau, il est très interconnecté, qu'il y a plein de liens directs qui se font entre toutes les structures sans forcément passer par des structures centrales, sans lesquelles tout s'effondre. En gros, c'est un réseau qui est assez décentralisé et interconnecté. Cependant, il y a quand même 7 structures qui sont là au centre, qui sont un peu plus grosses. Disons, la bulle, elle est un peu plus large. C'est parce que c'est proportionnel au nombre de liens que chaque structure a avec le reste de l'écosystème. Donc, on voit bien que le Courbouillon, le Centre Social La Paz, les deux Comcom, terreaux locaux que je vous ai mentionnés avant, et les deux collectifs, Glanage et SSA, sont les plus interconnectés en matière de démocratie alimentaire. Donc, ce sont ceux qui ont tissé le plus de liens sur ces sujets-là. Ensuite, là, il y a un zoom sur la SSA en particulier, donc notre caisse. Malgré le fait qu'elle est assez jeune comme caisse SSA, à peine environ 2 ans, la caisse, elle est déjà bien implantée sur le territoire. Il y a des liens qui sont plus forts, avec des traits plus épais, qui sont faits avec les producteurs et les productrices locaux et locales. On disait qu'en effet, il s'agit d'un territoire très rural, le nôtre, donc il y a vraiment un grand lien avec les producteurs et les productrices, qui sont parfois aussi bénévoles et membres du comité citoyen et qui participent à la prise de décision. Et il y a un lien fort aussi avec le collectif Glanage, parce que il y a plein de bénévoles qui sont sur les deux fronts, et avec le Courbouillon, qui est le siège administratif de la SSA. Ensuite, il y a d'autres liens qui sont faits. Le Courbouillon, comme c'est le siège administratif de la SSA, et comme c'est un peu la principale structure porteuse de ce projet-là, ça permet de faire le lien avec des acteurs extérieurs, notamment avec des financeurs ou avec le réseau, par exemple, d'ACT de Valence, le réseau démocratie alimentaire du champ à la table. Voilà. Et puis, il y a des liens aussi qui se tissent avec les autres caisses, notamment Diolfi et Grenoble, qui sont présentes aujourd'hui. Il y a des dispositifs qui aident, qui facilitent, disons, la mise en lien. Je ne vais pas les décrire parce qu'on n'a pas le temps, mais il s'agit de ces 5 dispositifs-là. Vous pourrez approfondir dans le livret. En tout cas, c'est notamment le projet de recherche Olfact, qui est un projet de recherche européen, le réseau d'ACT, démocratie alimentaire du champ à la table, qui est porté par des acteurs drômois notamment. C'est porté par le Moulin Urbain de Valence, mais voilà, il y a beaucoup d'acteurs drômois qui font partie de ce réseau, dont le Courbouillon, et aussi le laboratoire citoyen de la démocratie alimentaire, qu'on verra après. Donc, c'est des dispositifs où les acteurs peuvent se retrouver et coopérer. Donc, j'ai voulu approfondir un peu plus. J'ai vu qu'il y a plein de liens entre tous les acteurs, mais je me suis posé la question, est-ce qu'il s'agit vraiment de coopération ou est-ce qu'il s'agit plus d'échanges, d'interconnaissances ou de mutualisation? La réponse, c'est la deuxième. Donc, il s'agit plutôt, en effet, pas très souvent de coopération, mais plutôt d'échanges, de collaboration sur des projets définis à court terme ou de mutualisation de ressources humaines, de bénévoles, de ressources matérielles ou de salles, par exemple. Pourquoi je pense, de ce que j'ai compris, que la raison de ce déficit, on va dire, de coopération est due à 3 facteurs. Le fait que certaines structures sont relativement jeunes, donc ça fait pas longtemps qu'elles sont là. Il y a une diversité quand même de structures qui ont des approches très très différentes sur le territoire. Donc il s'agit de mettre ensemble des structures qui n'ont vraiment pas la même vision, comme les structures de l'aide alimentaire, avec des collectifs au contraire qui ont des exigences démocratiques très très élevées. Et puis aussi la troisième cause, c'est qu'il y a... c'était ça la troisième. Là, je commence à... Et par contre, il y a aussi de la coopération qui peut être... qui est, disons, facilitée par le dispositif dont je vous parlais avant. Donc, c'est le laboratoire citoyen de la démocratie alimentaire qui est, de ce que j'ai vu, le seul espace, vraiment l'espace où il y a le plus de coopération. Il s'agit d'un dispositif qui est cofinancé par l'ADEME et qui est porté par le Courbouillon et qui permet faire retrouver régulièrement ces cinq structures, donc Terreaux Locaux, le Courbouillon, les deux Comcom et le Centre Social La Paz. Donc voilà, il s'agit de coopération parce que là, vraiment, il s'agit de construire une vision commune plus sur le long terme. Et donc, c'est vraiment l'instance principale de la coopération sur ce territoire, même s'il y a d'autres dispositifs qui permettent la mise en lien. Voilà, en tout cas, selon une chercheuse que j'ai interviewée, elle a dit, de ce que j'ai compris, les liens se font davantage et se sont resserrés depuis les expérimentations qui sont menées. Donc voilà, même s'il n'y a pas encore beaucoup de coopération, il y a quand même des liens qui se font davantage grâce à l'émergence de ces initiatives de démocratie alimentaire. Donc j'ai quelques perspectives, je vais aller très vite, comme ça on pourra passer aux questions et puis aux ateliers. J'en ai proposé 11 sur le rapport, encore une fois vous pourrez aller lire plus dans le détail. La première, c'est que la démocratie alimentaire, c'est un terme parfois très exclusif et pas compréhensible par tout le monde, parfois très très flou. Donc il y a vraiment pas mal d'acteurs qui m'ont dit, notamment ceux qui travaillent à contact des gens et des habitants-habitantes, ils m'ont dit, bah, en fait, il y a plein de personnes avec lesquelles on travaille qui ne comprennent pas ce que c'est la démocratie alimentaire, il ne faut pas parler de ça. Par exemple, Terreaux Locaux, ils refusent d'utiliser ça, ils utilisent plutôt le terme bien-vivre alimentaire, parce que ça parle beaucoup plus aux personnes qui sont en insertion professionnelle. Mais on peut aussi quand même continuer de l'utiliser, mais par contre vraiment en expliquant ce que c'est, en donnant des exemples concrets de ce qu'on monte sur le territoire, des réussites aussi concrètes de ce qu'on fait, voilà, le glanage, la SSA, etc. Alors ça c'est des longues citations, mais en gros c'est pour dire que toutes les initiatives de démocratie alimentaire ne prennent pas en compte la dimension de la justice sociale. Et il y a quand même, pendant plusieurs entretiens, j'ai pu comprendre aussi que les initiatives sont souvent portées par des personnes plutôt aisées, pas forcément du point de vue économique, mais en tout cas avec un gros capital culturel. Et que du coup, ça peut vraiment exclure toute une partie de la population, malgré le fait que c'est une partie de la population qui est encore plus concernée par les enjeux d'accès à l'alimentation. Et donc il est vraiment important d'observer la représentativité et l'universalité d'accès à ces dispositifs-là et d'observer ça, d'évaluer ça de temps à autre pour vraiment se rendre compte de la portée de ces initiatives. Pour ce faire, ce serait bien de développer plus de liens avec l'aide alimentaire pour avoir vraiment plus de contact avec les personnes en précarité ou en grande précarité. Mais par contre, il y aura des freins qui sont ressortis pendant plusieurs entretiens avec les bénévoles de l'aide alimentaire. Ils m'ont dit « oui, c'est bien gentil, là, c'est ça, c'est très intéressant, ils sont souvent très intéressés, mais il y aura des freins matériels qu'il faudra prendre en compte et des freins culturels. » Les freins matériels, il s'agit par exemple du fait que ce serait chouette de faire participer les bénéficiaires à la SSA, mais ils ne peuvent pas payer à l'avance leurs courses à Biocoop, ils n'ont pas les moyens matériels. Donc il faudra par exemple réfléchir à créer une carte vitale qui permette de payer directement ses courses sans devoir être remboursé après. Et les freins culturels, c'est plutôt le fait que si les personnes n'ont pas l'habitude d'acheter dans tel ou tel magasin, Biocoop, producteurs locaux, marché trois prix, et pas l'habitude d'acheter du bio, malgré le fait que les prix puissent être plus accessibles, ça ne va pas changer les habitudes en 4 secondes. Et donc, il faut vraiment prendre aussi cette dimension de la justice sociale qui est plutôt la dimension culturelle en compte. Il faut du coup faire participer les empêchés par des personnes qui sont exclues des centres de décision, il faut vraiment les faire participer, ne pas faire pour eux, mais que ce soit fait par eux et elles. Voilà, donc les inclure dans les instances décisionnaires. Une piste aussi, c'est de travailler davantage avec les centres sociaux. Il y a plusieurs acteurs qui m'ont dit que c'est extrêmement enrichissant de travailler aux côtés des centres sociaux parce qu'ils ont la légitimité du travail de terrain, mais aussi l'habitude de travailler avec une diversité d'habitants qui brasse un peu toutes les classes sociales. Et donc vraiment, le fait de travailler par exemple davantage avec Active Royan ou les CCAS, avec la PAS, on a déjà beaucoup de liens, mais avec la Maison de Quartier Saint-Nicolas de Romans, il y a plusieurs centres sociaux avec lesquels la SSA a peu ou pas de liens. Et donc voilà, ce serait bénéfique de travailler avec eux. Et ça permettrait aussi de toucher des nouveaux publics. Voilà. Par des initiatives très concrètes qui peuvent parler aux habitants. Ça, je vais passer. Je vais quand même parler de ça. C'est de travailler aussi sur la sécurisation du travail paysan. Donc, comme je vous le disais, la SSA à Bournisère est quand même implantée dans un territoire très rural, très agricole. Donc, il y a beaucoup d'agriculteurs et paysans et paysannes qui participent aux initiatives. Mais pour autant, pendant les entretiens avec eux et elles, il est ressorti qu'en fait, la SSA, ça leur fait pas gagner tant de sous que ça, voire ça a zéro impact sur leur chiffre d'affaires. Et voilà, ça pose quand même la question de, ok, c'est un projet de longue haleine, mais comment ça se fait qu'en fait, les premiers concernés par ça n'ont pas de bénéfices directs et doivent faire ça que par des convictions militantes, quasiment. Et donc, l'idée, c'est de s'inspirer d'autres exemples de caisses, par exemple la caisse de Lorient, qui est très intéressante parce que eux, ils ont vraiment un projet assez transformateur d'utiliser les cotisations et le pot commun pour sécuriser des salaires fixes aux paysans, qui seraient payés comme un travail lambda, par heure travaillée et non par quantité de produits fournis. Voilà. Et l'idée, ce serait aussi de créer des instances consultatives rémunérées, parce que les paysans ont besoin d'être rémunérés eux aussi quand ils participent, quand ils donnent de leur temps de travail dans ces instances-là. Et donc, voilà, partir encore une fois, ne pas faire pour eux, mais faire avec eux, et que ce soit pensé par eux et elles directement. Je vais passer ça. Peut-être une dernière piste que je vais vous citer, c'est de construire une participation critique. Donc, dans la démocratie alimentaire, on fait une distinction entre la participation par assimilation, qui est une participation un petit peu passive, où on vous demande de participer, mais sans forcément vous former au sujet concerné, d'une participation critique. La participation critique donc, doit être construite en construisant des parcours d'apprentissage collectif, par exemple, avec des techniques d'éducation populaire. C'est un peu ce qui a été fait à la SSA avec un cycle de formation qui a duré 3-4 mois, et qui a permis au comité citoyen de s'emparer vraiment d'enjeux que autrement auraient été difficiles à comprendre. D'enjeux, bien sûr, agricoles et alimentaires, comme l'injustice alimentaire ou encore les formes de gouvernance participative. Donc, il est important de construire cette participation critique, et il est aussi important d'évaluer de temps à autre la qualité démocratique de nos dispositifs. Donc, il y a Julie Morel qui est venue nous faire des formations, qui a rédigé plusieurs rapports que je vous donnerai toutes les références qui sont dans le rapport que j'ai écrit. Mais donc, dans son rapport qui s'appelle le rapport Demain, Elle mentionne plusieurs indicateurs de la qualité démocratique qui vont de la transparence du processus, la transparence d'un processus c'est la base pour que ce soit démocratique, à la diversité des personnes impliquées, qui est présent, qui est absent, pourquoi, comment les inclure, quelles sont les conditions matérielles et matérielles pour les inclure, les moyens déployés, notamment en termes de partage de la connaissance, pour que il y a une participation réellement critique et active. Et puis aussi la nature et l'importance des décisions prises. Oui, le comité citoyen, il a pris des décisions, mais sur quoi? Quel impact ça a? Est-ce qu'ils ont juste pris la décision de qui va préparer le café, ou est-ce qu'ils ont pris des décisions qui vont avoir un réel impact politique? Donc voilà, il faudrait pour ça évaluer la qualité démocratique en temps 1, et puis après quelques mois, voire 1 ou 2 ans, la réévaluer pour voir s'il y a eu des changements, des évolutions. Voilà. Poursuivre les partenariats avec la recherche, vous pourrez voir ça plus dans le détail. Et pour conclure, Voilà, pour résumer un peu tout ce que je vous ai dit, il y a une richesse d'initiatives sur le territoire avec des acteurs qui ont différentes manières d'appréhender la démocratie alimentaire, des manières plus faibles, entre guillemets, sans être critiques, mais juste des manières un petit peu moins exigeantes et des manières très exigeantes. Donc il y a vraiment une richesse d'initiatives. Il y a un réseau au niveau des relations entre ces acteurs, un réseau décentralisé et très interconnecté, très dense. Avec sept acteurs centraux que je vous ai mentionnés tout à l'heure. Il y a des nombreuses, surtout, collaborations, mutualisations, mais pas beaucoup encore de coopération. Peut-être parce qu'il s'agit de structures plutôt jeunes, peut-être parce qu'il y a vraiment des visions que parfois ne sont pas faciles à concilier. Mais en tout cas, il y a des dispositifs comme le laboratoire citoyen de la démocratie alimentaire qu'il faudrait développer et qui permettent de créer les bases pour une coopération territoriale. Et voilà, comme je disais, les coopérations sont fondamentales pour vraiment essayer d'élargir les initiatives qui existent déjà et de répondre à des enjeux sociétaux de manière transversale et complémentaire, donc en apprenant les uns des autres de notre posture de chacun. Voilà.
C'est tout.
Est-ce que tu peux nous rappeler dans quel cadre tu as fait ce stage?
Alors, je suis avec le laboratoire PACTE et c'est financé par le LABEX ITEM, les transitions des territoires en montagne, quelque chose comme ça. Et le laboratoire PACTE, c'est un laboratoire de sciences sociales à Grenoble. Et c'était un stage à la fois de recherche, à la fois un peu de terrain, parce que j'ai quand même un peu animé le collectif, le comité citoyen, donné des coups de main un petit peu plus concrets, disons. Et voilà, et c'est dans le cadre de mon master 2, toujours à Grenoble, à l'IEP.
Ok. Combien de temps ?
4 mois.
Ouais. Juste un peu.
Ouais, bon. Relativement. Oui.
Moi, j'aimerais avoir des exemples de. Tu dis qu'il n'y a pas assez de niveaux de coopération.
Ouais.
Enfin, c'est un peu ton constat. Je crois savoir un peu ce que c'est, mais du coup, c'est quoi un peu concrètement la coopération entre
les instances ? La différence. Bah, disons que la grosse différence, souvent on confond collaboration et coopération. La différence majeure, c'est que la collaboration, c'est uniquement un échange basé sur le travail et basé sur les connaissances qui existent déjà. Voilà. Et la troisième différence, c'est que c'est sur une durée déterminée et sur un projet déterminé. Alors que la coopération, c'est vraiment la création d'une connaissance commune, d'une vision commune. Donc il y a vraiment ce processus aussi de se remettre un peu en question, de créer quelque chose qui soit porté par tous les acteurs et de faire ça sans un horizon forcément défini, mais plus sur le long terme. C'est plutôt ça. Et du coup, c'est pour ça que je dis qu'entre les acteurs, actuellement, il y a plus des collaborations ponctuelles sur des projets. Typiquement, je ne sais pas, les cantines solidaires qui sont venues aujourd'hui nous faire à manger, enfin, nous prêter leurs outils, c'est super, c'est de la mutualisation, c'est un échange et c'est concret. Mais on n'a jamais pris le temps peut-être de, enfin, je ne sais pas, en tout cas, pas quand j'étais là, pas à ma connaissance, de se dire quel est notre projet commun, qu'est-ce qu'on veut faire sur le long terme comme projet de société commun. C'est un peu ça la différence. Mais ce n'est pas évident. Je comprends. Vous avez d'autres questions? Ouais.
C'est pas vraiment une question, c'est une remarque. Je sais pas si j'ai droit. Non, mais dans le. Non, mais c'est par rapport au programme. Peut-être c'est pour les ateliers, c'est ça que je veux dire. C'est que tu. Ouais. Tu disais qu'il y a un réseau assez dense, beaucoup d'échanges entre les acteurs et tout, et que c'est pas très centralisé.
Ouais.
Du point de vue des structures, je pense que c'est vrai, mais il y a quand même un point faible. Je ne suis pas dans le bouillon justement permanent, mais ça repose sur pas beaucoup de monde en termes de personnes.
Ces personnes
appartiennent à différentes structures.
Oui.
On retrouve un petit point faible qui est assez fréquent, hein, c'est que s'il y a une ou deux ou trois personnes qui flanche dans le collectif, ça la fout mal pour l'ensemble.
Ouais.
Et c'est un peu par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, Émilie, du fait que c'est un truc, mais qu'on trouve tout le temps partout, quoi, dans les petites assos, dans les syndicats ou quoi, bah, c'est finalement c'est les salariés qui se retrouvent à tout gérer. Et puis, ceux qui sont censés être aux commandes entre guillemets, mais dans les prises de décision, bah, ils n'ont pas le temps ou que sais-je. Et puis voilà. C'est... Donc il y a une réflexion comme ça de se dire, bon, si c'est un truc qui est récurrent.
Oui.
Si le monde dans lequel on vit est fait dans une structuration où chacun a son job, que les choses soient efficaces, qu'il y en ait qui décident mal pour nous, c'est insupportable. Mais voilà, comment on remanie ça, quoi. Mais je pense qu'il y a une vraie question de fond, parce qu'à chaque fois qu'on essaye, on part tout le temps dans l'initiative qu'on va faire de la démocratie, on va tous participer au truc. Et je pense qu'il y a le souhait de beaucoup faire ça, surtout dans ce moment-là où on prépare les nouvelles élections, où on sent que voilà, il y a ce truc-là. C'est comment réellement on le met en pratique, comment on s'implique, mais sans que ce soit étouffant, que ce soit réalisable, etc. Et que ça ne repose pas justement sur 3-4 personnes clés, et que si ça flanche, patatras.
Ouais. Bah, d'ailleurs, justement, l'indicateur de qualité démocratique développé par Julie Morel, je vous le partagerai. Franchement, elle a fait avec tout un tas d'autres personnes. Elle a fait une grille, c'est des questions auxquelles il faudrait essayer de répondre tous ensemble. Par exemple, faire vraiment un comité citoyen centré là-dessus. On répond à ces questions et on évalue la qualité démocratique de notre SSA. Et il faudrait vraiment le faire et le faire régulièrement pour voir aussi l'évolution de cette qualité démocratique, parce que elle dit, bah déjà, il faut poser la question tout simplement, tout bêtement, aux gens qui participent. Est-ce que vous vous sentez partie, est-ce que vous êtes impliqué? Est-ce que vous pensez de faire de la démocratie au sein de cette initiative-là? Ça se trouve, non, en fait. Et je pense que c'est un retour que j'ai eu aussi pendant plusieurs entretiens, c'est que il y a quand même des personnes qui sont très investies, et ce qui est très positif pour tout un tas de choses. Mais c'est vrai que ça pose la question aussi de, collectivement, à quel rythme on veut aller, l'horizontalité qu'on veut avoir. Il y a plusieurs réponses, c'est pas un sens unique, mais en tout cas, il faudrait vraiment utiliser les outils développés par Julie Morel, parce que c'est hyper formateur. Et oui,
moi j'ai une question, une remarque qui fait un peu le lien, c'est par rapport à ta préconisation, en tout cas, enfin, de la critique d'utiliser le mot de démocratie alimentaire,
Peut-être
que ça ne parle pas sur le terrain, notamment aux personnes les plus précarisées, et donc de parler plutôt de bien vivre alimentaire. Alors moi, c'est des vocabulaires bien quelque chose, je ne peux plus l'entendre en fait. Hein.
Ouais.
Moi, c'est dépolitisant au possible, et ça s'intéresse aux individus, pas aux collectifs. Donc voilà, ça me... je trouve ça compliqué. Et surtout, enfin, c'est hyper inquiétant de se dire que le mot démocratie ne parle plus aux gens. Ne parle pas aux gens. Il faut vraiment, enfin, c'est se dire on va ne plus utiliser ce mot-là parce que ça parle pas aux gens. Je pense qu'il faut pas s'adapter à ça. Il faut se battre contre ça, mais de toutes nos forces, quoi. Parce que mine de rien, alors démocratie, on est loin d'être dans un modèle, dans une pratique politique. Il faut au contraire rappeler ce que c'est et rappeler que ça tient à nous tous d'y être. Alors, c'est vrai que on est dans un monde complètement dépolitisé et où on est des petits individus isolés et qui cherchent à bien vivre tout seul et se faire du bien à soi-même. Mais il faut sortir de ça. Hein, parce que bah, là, on a un mode mécaniculaire. 2027, on est trop bombardé là dans tous les trucs. À un moment donné, il va falloir. Je pense qu'il ne faut pas substituer, quoi.
C'est hyper intéressant. Je ne sais pas si... Pardon, Stéphane, juste... Hélène, tu as quelque chose à dire, vu que tu es impliquée à Terre Locaux, c'est... Je ne sais pas, sur le pourquoi vous utilisez cette expression de bien-vivre alimentaire au lieu de la démocratie alimentaire. Je ne sais pas si...
C'est vrai que, par rapport à ce qui s'est discuté là, il y a 2 ou 3 ans, c'est en dehors, on avait eu un DLA, un dispositif local d'accompagnement, à un cabinet. Et on avait une autre grande surprise, c'était qu'ils avaient interrogé tout le monde, les clients du marché, les salariés en insertion. c'est que ça va être changer des habitudes alimentaires. Donc il faut quand même... moi, je trouve que c'est une des choses qui nous avait, nous, surpris en tant que... on n'en avait pas l'impression. Et changer des regards aussi par rapport à la précarité, par rapport... C'est pour ça que je crois qu'il ne faut jamais... Il ne faut jamais partir battu du premier d'avance, perdant d'avance. C'est que ces petites actions qu'on entasse les unes après les autres, il y a quand même... Et je pense que sur la démocratie alimentaire, il n'y avait pas eu d'études là-dessus particulièrement, mais je pense que je vois progresser des choses, moi, on le voit. Donc, je peux dire ça par rapport à ce qu'on a... On a ce regard extérieur qui avait été bien utile pour voir des changements. Et pour ça que je parle des chiffres en tant que tel, ou des rapports en tant que tel là-dessus. Mais je pense que nos petits avancements quotidiens, nos petites progressions quotidiennes, elles servent aussi à ça. Moi, j'en suis persuadée.
Je ne sais pas si Stéphane, tu voulais...
C'était en complément à ce que disait Émilie. Je voulais rebondir sur ce que tu disais. En fait, sur l'utilisation du mot démocratie et du fait qu'il a perdu son sens et que voilà, ça, on y met un peu tout, j'ai envie de dire, c'est un peu étudié pour. Donc, il faut vraiment qu'on
n'accepte pas. Les mots, le sens des mots.
Karine, tu veux dire.
Moi, c'était juste pour dire que je suis très contente qu'il y ait des définitions de la différence entre coopération et collaboration. Je me reviens avec un plus si tu as parlé de participation assimilée et
participation
ou assimilable.
Non, assimilée, oui.
Et là, c'est vrai que moi, j'ai l'impression que pour aller un peu plus loin et embarquer d'autres gens, c'est vrai que si... Ouais. S'il n'y a que des débats ou des choses comme ça,
signe.
Moi je prends la parole, c'est parce que j'y crois. C'est vrai que faire en sorte qu'il y ait des événements aussi festifs, loisirs comme font d'ailleurs beaucoup de locaux, pour amener les gens à découvrir ces concepts, ces pratiques et tout, et aussi faire des choses ludiques, dont le jeu, je trouve que ça amène un peu de conscience. Voilà. Au-delà du travail bénévole et tout, que ça engrange. Je trouve aussi avoir des choses ludiques pour se connaître justement au-delà des actions et du travail. Mais si, comme il y a déjà pas beaucoup de force, ça peut donner envie de se concentrer que sur le travail. Mais en fait, c'est aussi comme ça qu'on va à une grosse échelle ou à petite échelle vers des trucs très clivés entre les milieux sociaux et des fois jusqu'au fascisme. Donc, je vous donne juste. D'où pour moi. J'avoue que j'ai un petit regret de me dire que j'avais déjà que 3 quarts d'heure pour faire des jeux coopératifs et une seule demi-heure, pour moi, je trouve que c'est un peu significatif de cette journée très axée sur l'expo, explication des concepts. Moi, j'avoue que je m'attendais à ce qu'il y ait plus de gens, mais ça fait longtemps que je n'ai pas suivi. Donc, je suis pas une critique. Désolée, je ne pouvais pas être là toute cette année. Mais voilà, j'avais juste envie de vous partager ça. Ce soir, il y a des choses festives et tout.
En tout cas, il y a une référence que j'ai mise à la fin du rapport, c'est l'impasse collaborative, ça s'appelle, et c'est un livre entièrement dédié à la distinction entre collaboration et coopération. Et en disant que non seulement elles sont différentes, mais la collaboration sont presque opposées comme deux concepts. Ils trouvent que la collaboration, c'est vraiment un concept très capitaliste et productiviste.
C'est son intérêt à soi, en utilisant les
autres. Ouais, c'est un peu voué, c'est ça, à servir l'intérêt individuel et à partager uniquement le travail, l'acte productif, et pas le reste. Donc je trouve que c'est intéressant. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions avant de... Peut-être encore une ou deux questions. Oui.
Est-ce que la coopération, ça ne demande pas plus de quelque chose de plus institutionnel, avec des salariés, avec des gens qui organisent, plus d'argent, plus de moyens?
Ouais, c'était une autre des pistes que j'ai un peu explorée, c'est est-ce qu'on va faire avec ou sans les pouvoirs publics, parce que c'était aussi un gros sujet des entretiens que j'ai menés. En effet, il y a des pour et des contre. C'est sûr que le soutien, notamment financier, des pouvoirs publics peut permettre de défrayer le travail bénévole, bah, de, d'éviter le, l'épuisement aussi bénévole en payant un salarié ou en tout cas du temps salarié. C'est sûr que ça peut aider. Il y a des instances qui sont mises en place, par exemple, par autre le soutien financier, que ça peut aider à la mise en place d'instances de coopération. Il y a aussi des instances de coopération qui sont organisées par les collectivités territoriales, par exemple plan alimentaire territorial, qui, notamment du côté Royan-Vercors, maintenant ils essaient vraiment de le rendre plus démocratique. À ce que j'ai compris, depuis qu'il y a les initiatives de démocratie alimentaire, ça les a fait pas mal réfléchir au fait de l'ouvrir vraiment aux habitants, aux habitantes, aux paysans, aux paysannes. Du coup, c'est vrai que les institutions aussi peuvent contribuer aussi à ça. Après, il y a tout un tas aussi de reprise en main, d'institutionnalisation qui vide la démocratie alimentaire de son sens, des fois, en rendant les initiatives vraiment des initiatives de solidarité et d'accès alimentaire, quasiment d'aide alimentaire, mmh. en les vidant vraiment de la portée démocratique. Donc, il faut jongler un peu entre les deux, je trouve.
Et moi, je dirais qu'il y a un autre concept dont on n'a pas plutôt parlé, c'est les alliés. L'alliance, tu vois. Mmh. Et ça, tu placerais où entre la collaboration et la coopération? Tu vois, je veux dire, par exemple, Thérault-Locon, on a l'impression qu'il y a une alliance entre la mairie et les trois meufs qui sont arrivés avec un projet. Tu vois, qu'il y a eu un vrai soutien, quoi, oui. tu vois. Avec, ça peut être hyper fort, hein, le soutien d'une mairie comme mmh. ça. Mais c'est le concept, c'est qui nos alliés, tu vois, et qu'est-ce qu'on fait avec eux, tu vois, est-ce que tout ça rentre dans ce genre de choses.
Ouais. Moi, je le placerais déjà dans la coopération, parce que ben tu as oui. déjà une vision commune
oui,
qui n'est pas du tout...
Oui, c'est la vision commune.
Ouais.
Mais ce serait intéressant, mais la
question. Oui, c'est vrai. Oui, oui, c'est vrai. Merci pour ces retours. Oui, on passe aux ateliers. Merci vraiment beaucoup pour...